Bonsoir Mayenne Barthès.
Bonsoir.
On vous cueille juste à la sortie de votre nouvelle création « Je suis venu pour rien », donc qui se joue actuellement à la Comédie de Saint-Étienne. Et vous faites de l'ennui le point de départ d'un processus de création. Comme un peu, en termes métaphysiques, on dit souvent « du rien, le tout ».
Oui, on peut le dire comme ça, ouais. C'est une bonne manière de le dire. En tout cas, le but, c'était vraiment d'écrire un spectacle qui interrogerait l'ennui en tant que sentiment pénible et universel qu'on connaît tous, qu'on a tous et toutes traversé un moment de sa vie. Et évidemment, l'enjeu, c'était de faire un spectacle qui serait pas chiant, voilà.
Et qui continue d'ailleurs à nous traverser, puisque c'est quelque chose, effectivement, vous dites, d'universel.
Oui. Et à la fois, je pense que ce qui a vraiment été le point de départ, c'est le constat et la sensation qu'en fait, je le ressentais plus, ce sentiment, dans ma vie. Enfin, moins en tout cas. Que c'était quelque chose que j'avais beaucoup vécu petite et que partie de mes souvenirs d'enfance très fort. Et que j'ai la sensation que là, dernièrement, dans ma vie, il a un peu disparu, un peu anesthésié, peut-être par les téléphones portables, par cette manière qu'on a de scroller tout le temps, dès qu'on a un moment d'attente, dès qu'on a un moment vide devant nous. Et que du coup, le sentiment vraiment pénible qui faisait naître des fois des mondes, des imaginaires à l'enfant que j'étais, je le percevais plus dans ma vie d'adulte. Voilà, c'était ça vraiment le point de départ, je crois.
C'est une écriture collective, donc vous êtes partie d'improvisation avec les comédiens. Comment ça s'est passé exactement ?
Eh ben, on est parti effectivement d'impro sur cette question-là un peu large, et puis petit à petit on a resserré autour de deux intrigues centrales et principales qui me permettaient d'être vraiment exhaustive sur le sujet. Donc j'ai proposé aux comédiens d'inventer des personnages de jeunes gens qui se retrouveraient dans un abribus, mais pas pour prendre le bus, vraiment qui se retrouveraient là pour rien faire de spécial, sans enjeu pour eux, et de voir de là ce qu'on pouvait faire naître. Voilà. On a comme ça eu des heures et des heures et des heures d'impro dont j'ai tiré quatre séquences maintenant dans le spectacle, de je crois 7-8 minutes chacune, et de l'autre situation, disons. J'avais envie de raconter comment on peut être face au chômage quand on est confronté à la perspective de plus travailler, qui est aussi une autre manière de faire face au vide, de faire face au rien, de faire face à une perspective potentielle d'ennui, en tout cas de rapport comme ça à soi-même, qui est vraiment aussi le propre de ce sentiment-là. Et donc d'un côté, on a quelque chose de très positif avec l'ennui, enfin de très joyeux, et de l'autre, peut-être quelque chose de plus dur, mais je trouvais que c'était important d'être la plus exhaustive possible en traitant ce sujet.
Alors, vous parlez à la fois, effectivement, du vide quand on n'a plus de travail, mais il y a aussi le vide quand on est au travail, et vous parlez d'un truc qui s'appelle « bore-out ». Et donc, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est que le « bore-out » ?
Y a un comédien qui le fait très bien dans le spectacle de l'expliquer, donc je ne vais pas trop le spoiler, je vais juste un peu le paraphraser, mais c'est une maladie du travail, c'est assez récemment inscrit, je crois, auprès de l'OMS, et c'est une forme de dépression, en fait, qui est liée au fait de s'ennuyer au travail, de ne plus avoir rien à faire, et du coup d'être confronté comme ça au fait de venir travailler, mais sans avoir rien à faire, pour résumer.
Alors, donc il y a deux scènes, puisque donc il y a celle sous l'abribus et celle qui est au travail, mais c'est un contexte donc de fin de travail. Du coup, on sent qu'il y a, vous opposez d'un côté effectivement peut-être le monde du travail avec toutes ses implications, et opposé peut-être au monde de l'enfance dont vous parliez tout à l'heure, propre à plus peut-être plus d'imagination, de joie dans la création. Est-ce qu'il n'y a pas une petite critique comme ça du monde du travail, en tout cas d'un travail très particulier qui est celui de l'entreprise?
Sans doute un petit peu, et en même temps, je ne sais pas si c'est vraiment le but était de les opposer, mais plutôt effectivement de se dire que ce rapport au présent qui est très propre à l'enfance, il n'était plus trop présent dans nos vies d'adultes, puis spécialement effectivement dans des vies professionnelles, et qu'il n'est pas facile à retrouver, et qu'en fait il nous crée de l'angoisse, ce sentiment, en perspective, c'est-à-dire je pense qu'on a plus peur du sentiment de l'ennui que du moment où on le traverse. Quoi.
Effectivement, peut-être le monde du travail prohibe cet élan créatif, justement.
Peut-être, et pas que. Il me semble qu'on vit dans une société, peut-être je me trompe, en tout cas c'est la perception que j'en ai, qu'on vit dans une société qui prohibe d'une manière générale tous les sentiments négatifs, que ce soit l'ennui, mais aussi, je pense, la mélancolie, même la tristesse, le rapport qu'on peut avoir au deuil. J'ai l'impression que c'est pas forcément toujours très bien vu de se laisser aller dans ce genre de sentiments. Et je milite parce que je pense que, enfin voilà, je trouve très bien par exemple toute la méditation, le yoga, enfin tout ce que la société nous encourage à faire, mais en même temps je suis un peu perplexe face à ça, parce que je me dis pourquoi on est comme ça autant dans la défiance par rapport à ces sentiments qui font partie d'une vie humaine, quoi, qui font partie de la vie et qui sont essentiels, il me semble, pour traverser une vie d'être humain. Je sais pas si ça répond vraiment, mais c'est-à-dire que le monde du travail, évidemment, oui, parce que bon, c'est l'essentiel de nos vies d'adultes aussi, donc forcément c'est là-dedans que ça trouve un point concret, mais en fait ouais, c'est en général, quoi. Et aussi parce que la société voit pas d'un bon œil les gens qui font rien. Voilà, ça aussi, j'avais à cœur d'en parler, je crois.
Alors, c'est un spectacle qui est très drôle. En tout cas, j'ai beaucoup, beaucoup ri. Et il y a des choses absurdes, et donc, effectivement, qui viennent du monde du travail, notamment le GIC, le journal intime collectif. Et finalement, à la fois, on a l'impression que la société crée de l'absurde, et en même temps que l'absurde, quelque part, a disparu aussi de nos vies. C'est un peu ce que vous disiez à l'instant.
Oui, peut-être. Alors, je fais une petite précision par rapport au GIC, parce que, en fait, ça vient de la ZAD. Et en soi, en plus, c'est une chose assez merveilleuse, vraiment, parce que c'est pour rendre compte, non pas tant du monde du travail, mais plutôt d'une lutte, et d'essayer de traduire le plus objectivement possible comment s'est passée la lutte, quelles traces on garde d'un moment comme ça où on a lutté pour les autres qui vont lutter à leur tour, à un moment donné, pour voilà, des raisons X ou Y. Et donc, bon, on s'est amusé autour de cette chose-là parce que, effectivement, ça aurait pu être juste un exercice d'écriture en fait, tout seul. Mais en soi, voilà, ça me paraît important d'avoir l'opportunité de réhabiliter cette chose-là, parce que, en soi, je pense que c'est très important de garder ces traces-là. Et nous, on s'est inspiré notamment, enfin, dans le travail, on a beaucoup travaillé avec un livre qui s'appelle Constellation, trajectoire révolutionnaire du jeune 21e siècle, d'un collectif qui s'appelle Mauvaise Troupe et qui a comme ça répertorié tout un tas de formes de lutte et de manières de se mettre à la marge de la société, d'expérimenter une marge. Et voilà, c'est une forme de livre GIC, disons. Bon, avec quand même des points de vue, évidemment, à l'intérieur. Mais c'est juste à propos du GIC que j'ai à cœur de réhabiliter. Peut-être parce que nos personnages le font pas bien. Mais, mais qu'en tout cas, en soi, c'est une chose très chouette.
Il y a deux scènes avec bon, les mêmes acteurs, les quatre acteurs, deux acteurs, deux actrices. Et le lien entre les deux, en fait, on pourrait se dire peut-être que c'est les mêmes personnes à deux époques différentes ou à deux mondes parallèles différents, peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez ?
J'adore. On nous le dit souvent, parce que je pense que les gens ont aussi beaucoup besoin comme ça, de relier ces deux moments, ce que je comprends parfaitement, même si nous, dans la dramaturgie, finalement, pour les construire, on a eu besoin vraiment de les séparer, eux, dans la construction des personnages. Voilà, chez certains, c'est assez tranché. Voilà, les personnages que joue la comédienne Cécile Médon, par exemple, ils sont très, très différents, celui qu'elle joue dans l'abribus, celui qu'elle joue dans l'entreprise, volontairement. Mais j'aime bien ce que vous venez de dire à propos d'univers parallèle. Ouais, je crois que c'est quelque chose comme ça, comme des choses qui traversent une génération qui était la mienne, hein, qui a vécu une adolescence sans téléphone portable. Et donc ces adultes dans cette entreprise qui pourraient, enfin voilà, qui pourraient mon âge maintenant. Donc oui, sans doute, en tout cas c'est ma vie à moi en tranche parallèle et celle des comédiens qui ont sensiblement mon âge. Voilà. Après nous, dans la construction, on n'a pas forcément pensé ça. Mais on aime beaucoup quand les gens nous le renvoient, parce que ça veut dire qu'on a laissé ouvert suffisamment de choses pour qu'on puisse se le raconter, ce qui est très chouette.
En tout cas, vous osez l'ennui au théâtre, ça c'est très bien, parce que même on voit à la télé, par exemple, on regarde un JT, si jamais il y a du silence, 10 secondes de silence, on sent que c'est la panique à bord, donc merci pour ça déjà. Et donc est-ce qu'on peut dire que c'est une pièce un peu mélancolique, puisque vous parliez tout à l'heure de cet ennui que vous ressentiez enfant et que maintenant vous avez du mal à retrouver peut-être ?
Oui, si on se dit que la mélancolie, c'est aussi quelque chose de beau à traverser. Mais par ailleurs, j'espère que c'est quand même drôle. Je suis rassurée que vous l'ayez senti, parce que c'était vraiment quand même le but aussi, voilà, d'amuser autour de ça.
Une pièce qui se joue jusqu'au 26 novembre à la Comédie de Saint-Etienne, qui part en itinérance peut-être après
Qui part un peu en tournée, qui sera au Théâtre de Villefranche le 2 février, dans le cadre du Festival Jeune Créatrice. Voilà, j'espère qu'il y aura une suite et une route longue.
On vous retrouvera au cours de l'année pour d'autres spectacles, je pense.
Oui, parce que je fais partie des artistes de la fabrique de la Comédie de Saint-Etienne. Donc cette saison, oui, j'ai un spectacle qui s'appelle Un étranger, qui tourne au Théâtre de Roanne, au Théâtre de Villefranche, à partir de la semaine prochaine. J'ai un spectacle qui s'appelle Prouve-le, qui interroge la question du complotisme, qu'un jeune public qui joue au Théâtre de la Renaissance à Oulin. Et voilà, j'ai une création en cours pour la saison prochaine à la Comédie sur le monde de la haute gastronomie, voilà.
Très productif donc.
Bah oui, oui, je pense que le Covid est passé par là et que du coup, il y a du rattrapage.
Alors, est-ce que vous êtes ennuyé pendant le Covid? C'est ça la question.
Oui, et ben alors ça, vraiment, ça a été un drôle de truc quand même, parce qu'on a eu ce sujet de spectacle et on a commencé à créer ce spectacle bien avant de se retrouver confrontés à la situation nous-mêmes, ben voilà, comme beaucoup de gens. Et je me suis bien ennuyée, ouais. Ça m'a bien fait aussi réinterroger mon spectacle pendant un temps, mais c'est bien, ça, je pense que ça a aidé à la création, quoi.
Merci beaucoup, Marianne Barthès, et bon vent à vous.
Merci à vous.